L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local, émission quotidienne sur l'autre radio. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Écoutez, ce matin j'ai gratté ma voiture. Donc voilà.
Oui, moi aussi.
Là, c'est vraiment compliqué de venir, mais on est là, donc tout va bien.
Oui, oui, bah heureusement, on n'est pas encore en Sibérie, je ne crois pas. Mais effectivement, j'ai gratté ma voiture aussi ce matin. C'est qu'on est bien, bien en hiver, il faisait, oui, je crois, moins 3, moins 4 degrés. Donc j'imagine que vous aussi, ce matin, vous avez peut-être dû gratter un petit peu le pare-brise. Aujourd'hui, on va parler du Brexit qui a pris effet, vous le savez, depuis le 1er janvier, après un accord signé de justesse entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Quels sont les changements pour les Britanniques installés en Mayenne? Question posée à Nicole Develle-Laigle de l'association Euromayenne. On parle aussi de la jeune chambre économique de Château-Gontier qui a élu sa nouvelle présidente, Célia Ruau. Elle compte bien développer plusieurs projets en 2021. Elle va nous en dire un petit peu plus. Et puis, le dernier épisode de notre série au Musée des sciences de Laval, dans la réserve, avec là aussi une question. Comment devient-on agent de conservation du patrimoine? Réponse en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Les bars, restaurants et lieux culturels devront encore attendre.
C'est ce qu'a annoncé hier soir le Premier ministre Jean Castex. Les cinémas et salles de spectacle restent fermés au moins jusqu'à fin janvier. Les bars et restaurants, eux, savent qu'ils ne pourront pas rouvrir avant mi-février. Dans les stations de ski, les remontées mécaniques restent aussi fermées. Un point sur la situation sera fait le 20 janvier. Les 15 départements déjà soumis à un couvre-feu à 18h, le reste pour au moins 15 jours. Ils pourraient être rejoints dès dimanche par une dizaine de départements de l'Est de la France.
La tendance à la hausse se poursuit pour les chiffres de l'épidémie.
En Mayenne, ce jeudi, le taux d'incidence est remonté à 114,6 cas pour 100 000 et le taux de positivité s'établit à 5,7%. Dans la région, le R, le taux de reproduction de la Covid est supérieur au niveau national, un petit peu au-dessus de 1. Après la première vaccination d'un professionnel de santé hier au centre hospitalier de Laval, la vaccination est lancée aujourd'hui dans 3 EHPAD en Mayenne, Les Tilleuls à Lassay-les-Châteaux, La Volière à Bouer et Corian à Luisery. 2 à 3 centres de vaccination pour les soignants, les pompiers et les aides à domicile de plus de 50 ans devraient ouvrir la semaine prochaine pour arriver à 8 centres à terme. Dès samedi, il y aura donc dès demain samedi au parc Saint-Fiacre à Château-Gontier, puis en début de semaine prochaine à Mayenne. Les pompiers, eux, commenceront à recevoir le sérum cet après-midi à l'état-major à Saint-Berthevin. Et puis le 18 janvier, 500 pharmacies de la région vont recevoir des doses de vaccins contre la Covid. Elles auront 4 jours pour les distribuer aux EHPAD qui, eux, ne dépendent pas des hôpitaux.
Un ouvrier héliporté sur le chantier du viaduc de Château-Gontier.
L'accident a eu lieu hier après-midi. Un ouvrier de 20 ans qui travaillait sur le chantier du viaduc de Fromentière près de Château-Gontier a fait une chute de 2 mètres. Il est passé à travers une trappe et a atterri sur un échafaudage. Trop haut pour une opération de secours classique, alors un hélicoptère a été mobilisé pour le secourir. Le jeune homme n'est heureusement que légèrement blessé.
Dans l'opposition municipale à Château-Gontier, Thomas Richoux jette l'éponge.
Le chef de file de l'opposition avait été élu en mars 2020 au conseil municipal de Château-Gontier-sur-Mayenne. Mais Thomas Richoux a annoncé son retrait il y a quelques jours. Il regrette que la minorité n'ait pas sa voix au chapitre. Sa décision aussi permet l'entrée au conseil municipal de Grégory Boisseau, un agent d'animation, et l'entrée au conseil communautaire d'Henri Faucheux, un retraité de la fonction publique hospitalière.
Pour soutenir le PCF, un rassemblement ce soir à Laval.
La section du Parti communiste de la Mayenne réplique. Après les tags découverts les 28 décembre et 4 janvier, mort au rouge et une croix celtique symbole de l'extrême droite entre autres, le PCF organise un rassemblement citoyen de protestation. Il a lieu ce vendredi à 18h devant le local situé rue des Trois Régiments à Laval pour, je cite, « dénoncer ces actes visant à nous intimider et à nous abattre ». Une délégation du parti sera reçue par le préfet cet après-midi.
Une manifestation aussi à Mayenne demain matin.
Le réseau Éducation sans frontières organise un rassemblement à partir de 10h30, donc demain samedi, place Clémenceau à Mayenne, pour empêcher l'expulsion d'Ivan, un Albanais de 22 ans, titulaire de 2 CAP, obtenu au lycée Gaston Lénard, mais sans titre de séjour. Il a reçu un avis d'expulsion. Et manifestation qui vise aussi à empêcher l'expulsion d'une famille installée en France depuis 6 ans, et ce, alors que, donc menacée d'expulsion, alors que le père de famille bénéficie d'une promesse d'embauche dans le milieu agricole, un secteur qui peine à recruter.
Gaël Faye et Philippe Catherine annonçaient au festival au foin de la rue.
Le festival de Saint-Denis de Gâtine annonce une édition normale malgré les circonstances. Les 2 et 3 juillet 2021, la programmation est la même que celle d'abord prévue à l'été 2020 avant l'annulation à cause de l'épidémie. Quasiment tous les artistes reviennent, assurent les organisateurs. Philippe Catherine, Dubink, Gaël Faye, Fatoumata Diawara ou La Rue qui est à nous seront de la fête. La billetterie pour l'édition 2021 est ouverte.
Le foot, Laval reçoit Créteil ce soir.
C'est le retour du championnat de national pour les tangos. Ils affrontent ce vendredi à 20h Créteil, 7e avec la meilleure défense du championnat. Et donc, je l'ai dit, coup d'envoi du match à 20h au stade Francis Lebasser.
Sur la route du Vendée Globe, Yannick Bestaven approche des côtes brésiliennes.
Le skipper de Maître Coq est seul en tête à 400 000 nautiques de ses poursuivants, Charlie Dalin et Thomas Ruyant, qui eux se disputent la deuxième place, sachant que les autres navigateurs ne sont pas loin. Et Maxime Sorel, lui, sur son bateau Vienne-Bu Mayenne, conserve sa 10e place, suivi de près par Isabelle Joschk.
À la une du Haut-Anjou ce vendredi, un projet trop beau pour être vrai?
Une question qu'on peut se poser, Claire, après le rachat en 2019 de la fontaine à bac au Bignon du Maine par un investisseur espagnol, Enrique Montserrat y Puig, je ne suis pas sûre de la prononciation, hein, mais voulait y installer un campus en lien avec le FC Barcelone. Mais un an et demi plus tard, rien n'a changé. L'hebdomadaire revient sur ce projet de centre d'entraînement pour des jeunes footballeurs barcelonais âgés de 10 à 16 ans. Un projet annoncé en juin 2019, mais depuis, le bâtiment de l'ancien centre de rééducation du Bignon du Maine est à l'abandon et le projet au point mort, ce qui semble être une habitude pour l'investisseur espagnol qui aurait aussi annoncé de belles ambitions pour, entre autres, un château en Aveyron ou une ancienne église à Granville, là aussi sans suite, à lire en page Pays de Mélégri. Ce vendredi, vous pourrez aussi découvrir le nombre d'habitants de chaque commune du Haut-Anjou. L'INSEE a dévoilé les derniers chiffres du recensement. En Mayenne, une trentaine de communes a perdu des habitants entre 2013 et 2018. À retrouver en détail l'évolution pour chaque commune, donc dans le Haut-Anjou. Et puis, une image pour terminer, celle d'un bateau amarré qui coule dans la Mayenne. C'est ce qui est arrivé le 29 décembre au niveau du Quai d'Alsace à Château-Gontier. Un bateau quasi à l'abandon qui est venu s'encastrer sous une barge à fond plat. Et pour éviter qu'elle ne soit trop abîmée, les pompiers ont dû intervenir pour sortir le bateau. Une situation qui peut s'expliquer par le fait que certains plaisanciers ne veulent pas payer le droit d'amarrage ou d'assurance et s'installent sur les berges et les quais, là où la commune ne peut rien faire. Retrouvez les précisions de Lucie Labatte, la directrice de l'office de tourisme de Château-Gontier. C'est en page 11 de votre hebdomadaire Haut-Anjou.
Et Marie, quelles sont les conséquences du Brexit ici en Mayenne?
Un accord a été signé in extremis le 29 décembre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, qui quitte donc définitivement l'institution des 27. En Mayenne vivent de nombreux Britanniques, souvent accompagnés dans leur installation et leur intégration par l'association Euromayenne. Chez les adhérents originaires d'Outre-Manche, on cherche à s'adapter aux nouvelles mesures, comme l'explique Nicole Devel-Aigle, la présidente de l'association Euromayenne.
Les Britanniques qui résident en Mayenne depuis un certain temps doivent faire des demandes de cartes de séjour maintenant. Il y a une différence entre ceux qui résident ici depuis plus de 5 ans ou moins de 5 ans et puis ceux qui vont arriver en fait maintenant après le 1er janvier. Un petit peu inquiet, oui, certainement, et inquiet, en tout cas, de façon plus générale sur la situation dans laquelle il se trouve maintenant. C'est un sujet qu'ils cherchent à éviter, en fait. Quand on leur en parle, ils détournent un petit peu la conversation et ils cherchaient à éviter de parler de ce sujet. Certains d'entre eux ont commencé à faire des demandes de naturalisation française. Dans l'association, je suis au courant de deux personnes britanniques qui ont obtenu la nationalité française et d'autres dossiers qui sont en attente. C'est au 1er octobre que le titre de séjour devra être obtenu. Ils ont jusqu'au 30 juin pour faire leur demande. Se rajoute au Brexit la question du coronavirus et l'Angleterre qui se reconfine là pour, je pense, plusieurs semaines. On a parlé éventuellement jusqu'à mi-février où ils reverraient la date de fin du reconfinement. Je pense que nos adhérents, certains n'ont pas vu leur famille depuis très longtemps hein, et ne vont peut-être pas la revoir d'ici un certain temps. Donc je dirais c'est la double peine, hein, c'est Brexit plus coronavirus. L'année dernière, on a assisté à pas mal d'arrivées parce que il y avait des personnes britanniques qui souhaitaient ne plus habiter au Royaume-Uni et venir habiter en Europe et donc en France. On l'a ressenti un petit peu. On a eu quelques personnes nouvelles et parce que parmi nos activités, on organise des cours de français. Donc, on a eu des arrivées de personnes nouvelles dans nos cours de français. Les 6 derniers mois de 2020, là, ça s'est vraiment accentué et on sentait bien que y en avait qui faisaient tout pour pouvoir arriver avant le 31 décembre.
Plus d'infos sur l'association sur leur site web bilingue anglais-français euromayenne.org. L'association est à la recherche de nouveaux adhérents francophones pour accueillir ces Britanniques qui arrivent dans le département. Une nouvelle tête à la présidence de la jeune chambre économique de Château-Gontier, Célia Rouault vient d'être élue présidente de l'association destinée aux 18-40 ans qui mène différents projets pour mettre en valeur le territoire. Lesquels ? Réponse d'ici quelques minutes, on écoute Deluxe pour l'instant avec leur titre « No Stress ».
I'm an energizer, rapper, flip the classical boob rapture. Peace to Mr. Magic for the rating daily. I feel laugh after laugh, take a token, run your paper. How's that in your ears? I put my back into it, put my front into it, put my freak into it, pull a tweak into it. Just keep wiggling it every dot that they end. By the way.
Belle ambiance qu'on puisse créer, c'est quand il y a les chiffres de la boisson sucrée. Kier, étant l'adepte du no stress, accepte que par notre musique on y accède. Quand le monde s'écroule, zen attitude, jette la chemise, que le show continue. En cas de laisser aller, on te pourchasse. Tu seras belle, même si t'as de la moustache. Tu voulais pas le sourire, on a le truc. Pour adoucir la vie, faut plus d'une astuce. Des coccinelles tirent ma diligence. Sans dire adieu, je me tire d'urgence. Avec de luxe, y'a de l'amour. Je suis avec ma guitare en bas de la tour. Pas de la plomberie, ça. Ah, pas de fuite. Écoute ça. We'll be right back. Casse-toi, espèce d'enfoiré.
C'était Deluxe avec No Stress, ça fait du bien juste avant le week-end. Vous êtes bien sur l'autre radio à écouter l'agité du local. Et puis c'est l'heure de notre interview. On parle donc de la nouvelle présidente de la jeune chambre économique de Château-Gontier, Célia Rouault, qui a été élue il y a quelques jours donc à la tête de l'association. Association qui regroupe des adhérents de 18 à 40 ans qui veulent s'investir pour leur ville ou leur territoire. Quels sont leurs projets pour 2021, leurs envies, les précisions avec la présidente de l'association.
Donc je suis Célia Rouault, je suis la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique de Château-Gontier Sud-Mayenne pour 2021. Je suis membre depuis 4 ans et donc cette année c'est à mon tour de représenter les 18 membres de notre Jeune Chambre.
Est-ce qu'on peut là déjà présenter rapidement les jeunes chambres économiques et en l'occurrence la jeune chambre économique de Château-Gontier? Quelles sont ses missions et qui regroupe-t-elle?
Alors la jeune chambre économique, c'est un mouvement qui est international, donc avec GCI. Ensuite, il y a une seconde partie nationale qui est JCEF, Jeune Chambre économique française. Et dans la Jeune Chambre économique française, il y a plusieurs jeunes chambres économiques locales, dont celle de Château-Gontier. À Château-Gontier, elle existe depuis 50 ans, enfin 51 ans maintenant. Notre objectif, c'est de mener des actions sur plusieurs sujets. Ça va de l'emploi à la solidarité, l'économie, l'écologie. L'objectif, c'est de donner aux membres l'opportunité de créer des changements positifs dans notre société.
Et donc c'est vrai que c'est une définition assez large. J'imagine qu'à chaque fois vous vous engagez sur des projets. Vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre il y a 4 ans la JCE de Château-Gontier?
Alors moi, le bénévolat, c'est quelque chose qui m'a toujours... ça fait partie de moi. J'ai une famille de bénévoles. Donc quand je suis arrivée sur le territoire de Château-Gontier, j'avais envie de m'investir dans une asso. Déjà parce que je connaissais personne. Donc je me suis dit que ce serait un moyen de rencontrer du monde et puis c'était aussi une occasion de m'investir. Moi à l'époque j'étais très intéressée par les sujets d'écologie, donc je suis rentrée à la Jeune Chambre en fait avec une idée en tête et j'ai porté mon projet auprès des autres membres. C'est comme ça que je suis rentrée. Alors après plusieurs personnes vont rentrer et être intéressées par un sujet qui existe déjà. Moi je sais que j'étais venue avec cette idée qui avait germé, c'était lutter contre le gaspillage alimentaire. Quand je suis arrivée à la Jeune Chambre, j'ai mené ce projet-là.
Et alors concrètement, ça s'est traduit comment ?
Alors c'était une action en partenariat avec les supermarchés locaux. On avait récupéré tous les invendus et on faisait une journée atelier sur la place du centre-ville, la place de la salle des fêtes à Château-Gontier. Et donc l'idée, c'était de montrer aux gens qu'en fait, avec des produits en date courte ou des légumes moches, on peut faire encore plein de choses en fait, et que c'est pas nécessaire de tout jeter et que les rayons zéro gaspillage, etc., sont pas des endroits à éviter. Au contraire, on peut y trouver des choses très importantes, quoi.
Donc ça a été peut-être l'une des premières actions que vous avez vraiment menées de A à Z, en tout cas.
Oui, ça, c'était ma première action. Alors, c'était très formateur parce que du coup, j'étais jeune membre. J'ai appris. Alors, à la Jeune Chambre, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle une méthodologie. Donc, j'ai appris comment mener une action du début à la fin. C'était vraiment formateur. C'est ma première action. Et en plus, j'en étais la directrice de commission. Donc, vraiment une très belle expérience.
Est-ce qu'il y a un lien avec les professions des uns et des autres ou ça ne joue absolument pas du tout par rapport aux missions de la JCE?
Non, ça ne joue pas du tout. À la Jeune Chambre, on aime bien faire justement ce qu'on ne fait pas tous les jours. Donc non, on a vraiment toutes des professions très très différentes. On y va pour faire autre chose, quelque chose qui nous plaît. Après, bien sûr, on a des compétences de notre métier. Mais l'idée, c'est plutôt de les partager avec les autres. Quelqu'un qui est doué en communication, dont c'est le métier, aidera quelqu'un dont c'est pas le métier, mais qui en a pris la mission à la Jeune Chambre.
Donc là, du coup, vous vous êtes tournée vers l'écologie, alors que c'est pas forcément votre métier, c'est ça? Quelle est votre profession?
Moi, je suis infographiste à l'imprimerie Faguier. Donc, ça n'a pas forcément de rapport avec l'écologie, même si c'est quelque chose qui est très présent dans notre métier, puisqu'on travaille avec le papier, donc la gestion des forêts, essayer d'avoir le moins de produits chimiques possible. Donc, y a un lien, mais clairement, c'est pas mon métier, l'écologie.
Et donc là, il y a un nouveau bureau qui a été élu en décembre, si je ne dis pas de bêtises, pour cette nouvelle année 2021. Vous vouliez vous présenter justement à la présidence. Qu'est-ce qui vous a poussé là aussi à prendre encore à nouveau de nouvelles responsabilités?
Je pense que la Jeune Chambre nous amène à ça. C'est un endroit où on peut tester, on a le droit d'aller au-delà de nos limites sans forcément prendre de gros risques. Donc j'avais pris des responsabilités avec l'action Plan de ton futur. Ensuite, je suis rentrée dans le bureau, j'ai été en charge des actions. L'année dernière, j'étais secrétaire. Et ouais, naturellement, en fait, on a envie de prendre des responsabilités. C'est aussi faire partie du bureau, c'est permettre en fait aux autres membres de se focaliser sur les actions et de leur donner le meilleur terrain de jeu possible, quoi.
Et donc c'est avec cette envie en tout cas que vous avez été élu là il y a quelques semaines. Quels sont les grands projets pour cette nouvelle année 2021?
Alors les grands projets de notre jeune chambre l'année prochaine, donc il y en a qui sont un peu à cheval sur l'année 2020. On a le projet Fil vert ton avenir qui s'est concrétisé en 2020, mais qui s'est créé en 2020, qui va se concrétiser en 2021. C'est la création d'un jeu de société à destination des collégiens pour les aider dans leur orientation professionnelle. L'idée, c'est de créer des scénarios qui partent des entreprises locales du bassin sud-mayennais et qui présentent les différents métiers en fait de ces entreprises à travers des énigmes en fait. Les élèves devront trouver le métier qui a les missions qui correspondent aux problématiques de travail. Donc ça, c'est Fil vers ton avenir. Le jeu va voir le jour cette année. Le premier prototype avec le premier scénario a été imprimé là en fin d'année. Donc j'ai hâte de voir, en tout cas le graphisme est génial et j'ai hâte de voir le jeu fini. On a une deuxième action qui a aussi vu le jour en 2020, c'est Mayenne Attractive. L'objectif, c'est de mettre en avant la Mayenne, notre territoire. Et eux, ils aimeraient travailler en trois étapes. La première, c'est attirer des personnes en Mayenne, attirer des profils parce que parfois on a des difficultés de recrutement. Donc l'idée, c'est de passer par une campagne de publicité dans les grandes villes, montrer que un territoire comme le nôtre a un cadre de vie hyper intéressant et qui a plein d'offres d'emploi. Ensuite, l'idée, c'est de concrétiser ces gens qui sont venus en les faisant rester, en les fidélisant. Et ça passerait par deux actions. Peut-être un panier garni avec tous les produits du territoire. On a énormément d'entreprises dans le coin. Montrer que, en fait, on a tout à notre disposition ici, qu'on peut manger local. Et une application mobile qui retracerait tout ce qu'il y a à faire, que ce soit culturel, sportif, des animations, enfin tous les loisirs qu'on peut trouver dans le sud Mayenne. Ensuite, on a une troisième action qui est l'opération Cœur de Ville. Là, l'idée, c'est de commercialiser une tablette de chocolat avec un plan de la ville et des offres de commerce de proximité. En fait, l'emballage de la tablette serait un moyen de communication pour soutenir les petits commerces. Donc ça, c'est une action qui a vu le jour là, suite à la crise sanitaire. L'idée, c'est de leur offrir de la visibilité, les aider peut-être aussi dans leur démarche de click and collect et d'avoir du coup un vecteur, la tablette de chocolat, qui serait peut-être un peu plus attrayant pour le consommateur. Un achat plaisir avec un emballage utile. Ensuite, on a une autre action sur le recyclage des masques. Pareil, une action très actuelle. On a du coup ce nouveau déchet qui est arrivé dans notre vie et on ne sait pas vraiment quoi en faire. La plupart partent aux ordures ménagères. L'idée, c'est de réfléchir sur la collecte et le recyclage de ces masques. On sait qu'il y a des entreprises qui peuvent les recycler. Donc, voilà, essayer de trouver un système qui soit à la fois sécurité par rapport au virus et en même temps écologique, et essayer d'en faire quelque chose de vertueux. J'ai une dernière action, c'est l'égalité entre les sexes. L'idée, c'est, alors là, c'est une action qui est vraiment toute jeune. On n'a que, elle a été votée, mais on n'a pas elles n'ont pas encore commencé à travailler dessus. L'idée, c'est de trouver trouver peut-être déjà l'origine des problèmes de management dans les sociétés entre les genres, et de trouver des solutions. Enfin, voilà, essayer d'avoir une réflexion autour du management et de l'équité entre les genres. La Jeune Chambre économique française, elle rentre dans la démarche des objectifs de développement durable, qu'on appelle aussi les Global Goals, qui ont été définis par l'ONU. Donc c'est 17 objectifs pour lesquels on cherche à rendre un monde meilleur et plus durable. Donc toutes ces actions, elles rentrent dans ces Global Goals.
Justement, on voit qu'il y a plusieurs de ces actions qui ont été vraiment directement inspirées, on va dire, par la situation actuelle avec la crise sanitaire, que ce soit pour le recyclage des masques ou le projet Cœur de Ville avec le plan des commerces sur la tablette de chocolat. Est-ce que, justement, en tant que jeune chambre économique, vous avez été aussi plus touchée par ça? Et puis, est-ce que ça a changé peut-être d'autres projets que vous aviez prévus et qui finalement ne sont pas possibles?
Alors oui, malheureusement, on a été touchés. Alors déjà dans notre fonctionnement, parce qu'on ne peut plus se voir, donc on travaille en visio. On est une association qui est là pour agir, donc notre but, c'est les actions. Mais le ciment, c'est aussi la convivialité. Donc le travail en visio est vraiment différent. Donc on a hâte de pouvoir se revoir. Donc là-dessus, ça nous a touchés. Par contre, on a continué d'agir parce que ça fait partie de nous. Et on a été touchés aussi parce qu'on avait une action sur 2020 qui était sur le zéro déchet, qui était en trois parties. Il y avait trois temps forts. Le premier, c'était une conférence avec Jérémy Pichon de la famille Presque Zéro Déchet. Donc cet événement a dû être annulé parce que donc une conférence avec plusieurs personnes dans une salle confinée, c'était pas possible. Le deuxième temps fort, c'était un forum. Donc c'est pareil, le forum n'a pas pu avoir lieu. Et le troisième temps fort, c'était un défi, mais qui rentrait dans cette démarche de prise de conscience par la conférence et le forum. Donc le défi n'a pas vu le jour non plus. L'idée, c'est que cette action, comme elle a été menée jusqu'au bout, vraiment, elles avaient construit tout le concept. L'idée, c'est que le jour où on pourra le refaire, on puisse reprendre cette action clé en main, sans reprendre toute la méthodologie depuis le départ, quoi.
Donc, si tout va bien, peut-être au deuxième semestre 2021, peut-être
voilà,
qu'il y aura cette conférence.
Pour l'instant, on a en tête le deuxième semestre 2021. Et puis, au pire, si ce n'est pas le bon moment, alors que ce soit le contexte ou que tous nos membres sont en action et qu'on ne soit pas prêt à le faire là, en tout cas, j'espère qu'elle aura lieu en 2022.
Donc là, vous êtes élu vraiment jusqu'à décembre 2021 pour un an?
Oui, c'est ça. C'est un an, une année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre.
Et qu'est-ce que vous espérez là pour cette année en tout cas?
Alors j'espère beaucoup de choses. On a un programme assez riche. Alors le programme du bureau est plutôt lié aux membres. Hein. Le but, c'est de leur donner toutes les clés pour qu'eux mènent les actions et que ça roule tout seul. Moi j'aimerais qu'on ait des formateurs à Château-Gontier, donc on va organiser... un week-end de formation pour les formateurs, pour former des formateurs. Je voudrais recréer du lien aussi parce que on a une jeune chambre qui est en développement. On a beaucoup de nouveaux membres et donc l'idée, c'est la jeune chambre, c'est aussi un réseau. Donc l'idée, c'est de créer des relations, des ponts avec nos anciens membres et que les nouveaux connaissent toutes les personnes qui sont passées par la Jeune Chambre, parce que c'est des réelles belles rencontres, et c'est aussi un moyen de grandir que d'échanger avec toutes les personnes qui sont passées par la Jeune Chambre. Donc ça, c'est un peu mes grands axes de l'année, de la convivialité, du partage et du travail. Alors après, dans le contexte actuel, on travaille sur les projets de fonds, et on espère fortement qu'au deuxième semestre, on pourra se voir. Ça, l'avenir nous le dira. J'espère en tout cas qu'on aura réussi à mener la Jeune Chambre, que les actions auront vu le jour et que qu'on sera toujours vivant l'année prochaine.
C'est bien sûr tout le mal qu'on souhaite à l'association. Pour suivre ses projets ou les contacter, vous pouvez taper JCE Château-Gontier sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. On est vendredi et vendredi, on poursuit notre tour d'horizon du dispositif service civique dans la région en lien avec 5 autres radios associatives. Aujourd'hui, direction la Loire-Atlantique avec Jade FM qui s'est rendue au centre culturel Mireille Moyon à Paimboeuf pour découvrir le dispositif Action Jeune entièrement lié au service civique.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission ? Et quel constat du côté des structures accueillantes ? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Aujourd'hui, Jade FM découvre avec vous un dispositif dont le service civique est le rouage central. La structure d'accueil s'est entourée de nombreux partenaires, tous engagés sur les différents aspects de l'insertion professionnelle, mais aussi sociale des jeunes. Nous sommes sur la communauté de communes Sud-Estuaire. La structure d'accueil est le centre socio-culturel Mireille Moyon à Paimboeuf, le CSC. Action Jeune, c'est le nom, semble-t-il, provisoire de cette action où 7 jeunes sont accueillis dès le mois de décembre. Marina Chupin, coordinatrice, et Steven Barbier, formateur, nous en disent plus sur la spécificité du dispositif.
On use du service civique comme outil pour permettre à ces jeunes de franchir ce qui pour eux semble être un obstacle, en tout cas dans leur parcours de vie aujourd'hui, qui les empêche en quelque sorte de tendre vers l'insertion professionnelle aujourd'hui. Nous, on pense qu'il y a cette étape-là en amont qui est l'insertion sociale.
Le service civique pour aider les jeunes en difficulté, cela implique une sélection des candidats non plus sur un projet professionnel, mais sur une connaissance de leur environnement plus global.
Que ce soit autour de l'isolement ou autour de l'addiction, jeux vidéo, alcool, drogue, etc. C'est vraiment des jeunes qui ont ce type de profil. On sélectionne ces jeunes. Et on est en partenariat avec la mission locale, un agent de prévention également sur la Comcom, qui font aussi qu'ils vont rediriger ces jeunes vers cette mission. Bon, en tout cas, on a souvent des profils qui nous correspondent en termes de jeunes.
Marina Chupin coordonne l'action et bien au-delà.
Aussi, nous intégrons les parents dans cette action, surtout cette année. Il y a vraiment un besoin aussi que les parents s'investissent, c'est quand même principalement des jeunes mineurs. Mm-hmm. C'est notre objectif de cette année, on va dire.
La CCSE, ce sont 6 communes à majorité rurale et côtière.
Et on parle beaucoup d'isolement aussi à cause de la mobilité. Nous avons notre territoire, est mal desservi. Donc, y répondre, c'est très difficile. Mais vraiment, là, nous, on est situé au milieu de tout ça, de Paimboeuf, et du coup, on touche vraiment tous les jeunes de la CCSL.
Avec un animateur agent de prévention, avec une conseillère mission locale, mais aussi pour les familles avec un assistant social du département. On est une équipe de 5 professionnels qui se réunissons toutes les 2 semaines au travers de réunions, de ce que l'on appelait des réunions de concertation, pour pouvoir échanger justement assez régulièrement sur les jeunes, sur la manière dont se déroule le dispositif et de voir un peu s'il y a des pistes d'amélioration ou s'il y a des choses à pointer plus particulièrement.
Franchement, c'est quand même surprenant que je trouve autant de jeunes arrêtent en 3e et qu'il n'y ait pas du tout d'accompagnement derrière, que ce soit avant et après. Donc moi, je ne parlerai même pas d'isolement, parce que c'est des jeunes quand même qui ont des copains, pour certains, je dis bien pour certains, la majorité. Il y en a forcément quelques-uns qui s'isolent, mais il y a quand même ça. Après, ils s'isolent aussi autour des jeux vidéo. Ouais. Mais il n'y a pas que ça quand même. Moi, je trouvais par rapport à l'année d'avant, quand même, ce qui ressort, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'accompagnement pour les décrocheurs. Et une problématique, oui, ça. J'ai envie de dire, heureusement qu'il y a cette action-là qui permet à ces jeunes-là de venir, parce qu'autrement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils iraient où ? Qu'est-ce qu'ils... Voilà.
Nous retrouverons très vite Marina et Steven qui nous diront ce que vont faire concrètement durant leur mission les 7 jeunes accueillis au CSC. On dirait bien que pour eux, il va y avoir du changement.
Alors, on a nommé le dispositif Action Jeune.
On n'a rien à dire qu'au final, il y a jeune dedans, il y a action, bon, bah, c'est cool.
permettre aux jeunes aussi de trouver un titre à cette action.
C'est pour ça qu'ils ont travaillé cette année. Je pense que c'est les jeunes qui vont trouver le nom et ce sera plus sympa. Je veux dire, voilà, puis que ça vienne d'eux, bah, vraiment, ça va parler. Je pense.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis bah, à bientôt.
À bientôt.
C'était Volontaires en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Cette chronique autour du service civique est à retrouver, comme toutes les autres, en podcast sur notre site l'autreradio.fr. Nouvelle chronique, notre rendez-vous quotidien désormais que j'espère vous aimer, vous apprécier autant que nous, la chronique de Soizic, des objets pour un monde. Bonjour Soizic, alors pour cette dernière chronique de la semaine, vous nous parlez du Black Friday et de ses origines.
Eh oui Marie, le Black Friday, quelle effervescence quand le grand magasin du monde brade à tout va. Et pourtant, je ne sais pas vous Marie, mais moi l'appellation même de Black Friday me semble suspecte. Le nom de vendredi noir n'est en effet pas très positif. En Occident, le noir n'est pas un symbole de joie ni de fête. Et d'ailleurs, les commerçants ont bien essayé à plusieurs reprises de changer ce nom peu engageant en Big Friday. Mais rien n'y a fait. Alors, pourquoi vendredi noir? Les origines sont diverses et pas très certaines. Mais bon, il semblerait que ça puisse provenir de l'écriture en noir dans les livres de compte des commerçants aux États-Unis qui sortaient donc du rouge les lendemains de Thanksgiving puisque c'était le top départ des courses de Noël. Bon. Autre source apparemment plus sûre, celle du vendredi noir des policiers de Philadelphie débordés lors des célébrissimes matchs de football américain qui avaient lieu le vendredi suivant Thanksgiving. Il y a d'autres versions, mais bon. On va retenir ces deux-là. Quoi qu'il en soit, c'est assez récemment que le Black Friday s'est immiscé en Europe. Et comme business is business, c'est principalement par le truchement d'Amazon que le phénomène est arrivé jusqu'à nous. Curieusement, la Chine s'en est également inspirée, mais en même temps distinguée. Dans l'Empire du Milieu, c'est en effet le 11 novembre que les prix valsent à qui mieux mieux. Et promu ce Black Friday chinois par devinez qui ? Eh bien bien sûr, Alibaba, l'Amazon chinois. Alors, quelle qu'en soit la date, le marché mondial du Black Friday est particulièrement juteux. Imaginez que le 27 novembre dernier, les consommateurs américains ont dépensé 6 millions de dollars par minute en ligne. Mais là encore, si la possibilité de la bonne affaire réjouit de nombreux consommateurs, le Black Friday n'est sur plusieurs points pas tout blanc, sans mauvais jeu de mots. Ainsi, savez-vous, Marie, qu'aux États-Unis, depuis son existence, le Black Friday est responsable de 12 morts, piétinés par les foules, et de 117 blessés. Par ailleurs, cette grande messe consumériste pose évidemment en question quand on connaît la contribution dramatique de la surconsommation sur l'environnement. D'ailleurs, pour y faire contre-pied, il y a de nombreuses initiatives qui ont vu le jour en réaction à ce Black Friday, par exemple le Green Friday, qui a été initié par des enseignes qui promeuvent une consommation responsable. On a également le Block Friday, qui consiste à bloquer les hangars d'Amazon par des actions de désobéissance civile. Mais quoi qu'il en soit, choisir entre le porte-monnaie ou l'environnement, à mon avis, reste quand même un problème de riches. Alors, je me demande si finalement la meilleure façon de raison garder n'est pas simplement de retenir que d'après UFC Que Choisir, à qui on peut faire confiance, eh bien tenez-vous bien, la moyenne des ristournes de cette journée de folie avoisinerait en fait les 2%. Décidément, Marie, le grand magasin du monde n'en finit pas de nous piéger.
Eh oui, il faut se méfier, on l'a compris. Merci beaucoup, Soizic. On vous retrouve mardi en fin d'émission pour découvrir la nouvelle histoire d'un objet de la mondialisation. Et puis, c'est le dernier jour de notre série au sein de la réserve du Musée des sciences de Laval. Nous vous avons fait découvrir depuis lundi une partie de la collection, en majorité des fossiles, animaux et végétaux, mais aussi des minéraux, des animaux naturalisés et des instruments techniques. Au total, entre 130 000 et 150 000 pièces bichonnées par Roch-Alexandre Benoît, assistant de conservation du patrimoine au musée, il revient sur son parcours professionnel.
À la base, moi, j'ai fait des études de paléontologie. enfin biologie puis paléontologie. Et en fait, moi, j'ai été recruté justement pour ces compétences-là, donc m'occuper vraiment de l'inventaire des collections paléontologiques. Et puis, petit à petit, du coup, on a commencé à rajouter des missions un peu plus que l'inventaire, et du coup, essayer maintenant de faire des médiations, de faire des expositions autour de ça. Et puis, bah, finalement, vu qu'on n'est pas très nombreux dans la structure, on est obligé, nous, d'avoir un regard un petit peu sur tout ce qu'il y a en collection. Du coup, après, quand on a des objets justement qu'on ne connaît pas, qui ne font pas partie de nos spécialités, eh ben, on va essayer de se renseigner un petit peu dessus, de faire des petites recherches succinctes, parce qu'on n'est pas des experts dans le domaine, mais voilà, on essaie d'avoir le plus d'informations possible sur ces pièces-là. Et d'où ça vient, de quelle époque, qui utilisait ça, pour quelles raisons, et ainsi de suite. Moi, du coup, c'est à la base un groupe d'algues d'eau douce, les chérophytes. Et Jérôme, lui, du coup, c'est de la biologie à la base. Donc, il a fait un DEA, c'était sur les vers marins. Du coup, lui, après, il a passé tout ce qui était concours, en fait, fonction publique, en conservation, pour pouvoir justement gérer les collections convenablement, et ainsi de suite. Et du coup, moi, je suis en cours. La finalité, ça peut être simplement de savoir ce qu'il y avait sous nos pieds. Par exemple, là, pour les minéraux, les fossiles. Surtout les fossiles, c'est beaucoup de choses qui viennent directement de la Mayenne, qui ont plusieurs millions d'années, voire plusieurs centaines de millions d'années, et des choses qui vont traduire en fait des environnements de cette époque-là. Donc c'est-à-dire que par exemple, quand on retrouve des brachiopodes ou des oursins, ou ce genre de choses-là, c'est que à cet endroit-là, à telle époque, il y avait la mer. Si on retrouve par exemple les plantes du Carbonifère, celles-là viennent de Saint-Pierre-la-Cour la plupart. Là, du coup, c'était déjà des zones hors de l'eau, en fait. C'est vraiment là du continent, mais avec des grandes forêts, avec énormément de plantes et très très chargées. Il y avait vraiment beaucoup beaucoup de vie à ce moment-là. Mais là, c'était hors de l'eau. Alors que juste quelques millions d'années avant, c'était sous l'eau. Et puis, en fait, quand on revient un peu plus tard, on va trouver, par exemple, encore des brachiopodes ou des oursins, ou ce genre de choses. Et là, c'est déjà un peu plus récent, mais en fait, c'est encore des organismes marins qui reviennent. Donc il y a eu plusieurs phases où la Mayenne a été sous l'eau, en fait. Toute l'histoire géologique et toute l'histoire environnementale, en fait, de la zone. À la base, moi, c'était mes petites algues, mais en fait, c'est vraiment juste toutes les traces de vie, en fait, du passé. Tous ces changements, en fait, comment ils sont intervenus, pourquoi, essayer de comprendre, en fait, ces choses-là. C'est vraiment ce qui m'a motivé, moi, à faire mes études à la base, puis à travailler ici. Il y a tellement d'informations qu'on n'a pas encore et qui sont intéressantes à voir, finalement. Donc après, c'est vrai que pour le coup, on travaille le plus possible avec des chercheurs sur certaines des questions, parce qu'ils vont être plus spécialisés que nous sur certains domaines et pouvoir nous expliquer certaines choses, mais il y a vraiment énormément de choses encore à voir. C'est une tâche qui est interminable en soi, mais il y a des choses qui peuvent être mises en avant, des questions auxquelles on peut apporter quelques réponses en fait au fur et à mesure, petit à petit.
Tous les épisodes de la série sont à retrouver sur l'autreradio.fr. Le musée des sciences est pour le moment toujours fermé, au moins jusqu'à fin janvier. Et on termine l'émission avec notre rubrique initiative, Claire. Pour ce week-end, on va se régaler avec des galettes pas comme les autres.
Et oui, toutes les excuses sont bonnes pour manger la galette des rois, mais encore plus quand elles permettent de soutenir une grande cause. À Laval, à la Maison du Pain, 50 centimes par galette seront réversés aux sapeurs-pompiers de la Mayenne, avec des fèves à l'effigie de leur véhicule d'intervention, l'occasion de collectionner des fèves uniques pour leur rendre hommage et les soutenir. À Martigné-sur-Mayenne, après les cartes postales anciennes, la boulangerie L'Univers du Pain met à l'honneur les bâtiments emblématiques du territoire, l'école, la salle des fêtes ou encore le plan d'eau. 10 fèves de la ville sont à retrouver dans les galettes. Des fèves locales car elles sont fabriquées par Cola Clamcy dans l'Yonne, et des galettes locales car toutes les matières premières viennent de la région. Un coût conséquent mais un rendu meilleur pour le couple de boulangers. On a donc de quoi se régaler ce week-end.
Merci beaucoup Claire pour tous ces bons plans. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local. À suivre à l'antenne à 20h, Passe-moi le thème, une émission spéciale en hommage aux artistes disparus l'année dernière, donc en 2020. Ils sont nombreux, vous pourrez l'entendre. Et nous, on se retrouve lundi à 12h15. Je vous souhaite un beau week-end et une très bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'Agité du local.